m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais
oui. Avec courtoisie,
courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Calme, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Oui, vous êtes sur Radio Courtoisie. Bienvenue dans Restons Courtois, où vous pourrez nous appeler au 01 46 51 00 85 ou nous adresser des courriels à courtoisie@rc.fr. courtoisie@rc.fr. Et je répète d'ailleurs le numéro de téléphone. Allez, pas de jaloux, 01 46 51 00 85. Nous allons commencer par parler de la Suisse et surtout de cette initiative qui entendait faire en sorte qu'il n'y ait pas de plus de 10 millions d'habitants en Suisse. Ça a été un échec, c'est une initiative populaire. Nous y reviendrons donc avec Oskar Freisinger, qui a été dirigeant de l'UDC, qui a été membre des instances parlementaires suisses, qui a été président de l'UDC Valais. Enfin, voilà, c'est un homme politique suisse et c'est un homme politique de droite, puisque l'Union démocratique du centre est en fait un parti de droite et même, on m'a dit, très à droite, voilà, puisque c'est comme ça. En Suisse, quand on s'appelle Union démocratique du centre, on est en fait très à droite. C'est sans doute parce que la Suisse est très à gauche, mais justement, Oskar Freisinger nous en parlera. Et aussi Benjamin Diesbach, qui est avec nous et qui a le plaisir d'être suisse et donc d'avoir voté pour vous avez voté justement pour que la Suisse ne dépasse pas les 10 millions.
Tout à fait.
Oskar Freisinger, donc cette votation, donc c'est une initiative populaire, donc il suffit que 100 000 Suisses signent une pétition pour qu'on puisse avoir une loi, enfin une proposition de loi, enfin l'équivalent d'une proposition de loi, qui est votée par l'ensemble des Suisses. Donc l'UDC a réussi à faire en sorte qu'il y ait ces 100 000 personnes qui demandent à ce que la population de la Suisse soit limitée à 10 millions. Vous êtes pour le moment à 9,1 millions. Vous avez déjà pu constater depuis plusieurs années que l'afflux continuel d'immigrants en Suisse fait qu'il y a une tension sur le marché de l'emploi, il y a une tension sur le marché immobilier, le marché du logement, qu'il y a une dégradation des services publics et notamment des services de santé, qu'il y a évidemment des problèmes de sécurité. Et donc, c'est pour toutes ces raisons, pour préserver en fait une qualité de vie suisse, que votre parti avait appelé à voter « oui, nous voulons une Suisse qui soit limitée à 10 millions » ou « non, nous ne voulons pas d'une Suisse qui dépasse 10 millions ». Et à votre avis, pourquoi 54% des Suisses ont décidé que finalement, non, c'est pas grave, le territoire de la Suisse peut admettre une population sans cesse grandissante?
Parce qu'un certain nombre d'électeurs se sont fait simplement tromper par cette énorme machine médiatique. Il y a même un membre du gouvernement, alors que le gouvernement normalement doit être dans ces cas-là relativement discret, donc il y a une sorte de devoir de réserve du gouvernement. Il y a un de ces ministres, particulièrement le seul ministre socialiste, qui a fait campagne comme s'il était chef d'un parti. Il n'a plus du tout respecté cette réserve. Donc, et puis ensuite, vous aviez tous les milieux économiques, vous avez tous les partis contre l'UDC. Donc, ça a été vraiment... on a fait peur aux gens, on a dit que ça allait être une catastrophe, ça allait être le chaos, alors que le chaos, on l'a déjà, c'est eux qui l'ont organisé. Alors, il y a des gens qui ont cru ça, puis qui se sont dit, bon, oui, on voit que la situation, elle est mauvaise. Et d'ailleurs, nos adversaires, dans les débats, avouaient qu'il y avait un gros problème. Mais ils disaient, c'est pas la bonne solution. Par contre, quand on leur posait la question, mais c'est quoi la bonne solution ? On n'a pas vu venir grand-chose. Donc, les gens se sont dit, ouais, c'est peut-être vrai que de mettre un chiffre de 10 millions, c'est peut-être pas une bonne solution, etc. Pourquoi est-ce qu'on a mis un chiffre ? C'est parce qu'on a déjà gagné deux fois un vote populaire. On avait gagné sur l'immigration de masse, où le peuple avait dit, oui, il faut limiter l'immigration de masse.
Ça, c'était en 2014.
Voilà, ils n'ont rien fait. Il n'y a rien de concret, rien de valable. Ensuite, on a, contre les étrangers criminels, on a gagné de nouveau, parce qu'il fallait rapatrier ces gens le plus vite possible, on les expulse, on durcit, etc. Ils ont un peu durci, mais pas grand-chose. Alors on s'est dit, bon, ce coup-ci, on va mettre un chiffre précis. Comme ça, ils sont coincés. Et puis, de venir nous dire, oui, mais alors on n'aura plus de main d'œuvre étrangère. C'était totalement mensonger. Il vous suffit simplement d'éviter de faire rentrer une masse d'astrophysiciens congolais et puis d'ingénieurs érythréens, et puis vous avez réglé le problème. C'est-à-dire qu'on a énormément de gens, passé la moitié des gens qui entrent en Suisse, n'entrent pas pour travailler. Donc vous avez là une énorme marge de manœuvre. Ils viennent simplement pour surcharger nos assurances sociales. C'est tout. Vous avez le même problème en France. Donc, voilà, maintenant, le peuple a assez prononcé, c'est vrai, mais rappelez-vous bien que nous, on a un électorat d'environ 28-29% pour l'instant, et qu'il y a 45% des gens qui ont voté pour notre initiative. L'année prochaine, il y a des élections fédérales. Et les gens qui ont voté oui à cette initiative, maintenant, sont très frustrés. Moi, j'ai vu les réactions par mail, partout, j'ai vu les messages, ils sont extrêmement frustrés. Et s'il y a une règle qui est malheureuse, depuis que je fais de la politique en Suisse, ça fait depuis 20 ans, ça s'est toujours avéré juste, plus c'est mauvais pour le pays et plus l'UDC profite. C'est-à-dire que là maintenant, pour le pays, c'est pas bon. Ce vote, à mon avis, c'est pas bon parce qu'on n'a rien résolu avec ce vote. Par contre, nous, électoralement, moi, je vous fais tous les paris que la prochaine fois, on sera au-dessus de 30% de part électorale. L'année prochaine, on va gagner les élections fédérales. C'est presque sûr.
Alors, donc, voyez, les élections fédérales, c'est l'équivalent des élections législatives en France, si je ne m'abuse.
Oui, le renouvellement du Parlement, oui. Ouais. Et ça, c'est l'année prochaine. Donc, électoralement, pour nous, c'est intéressant, parce que il y a beaucoup, surtout dans les milieux radicaux, il y a beaucoup de gens radicaux, c'est un parti de droite, un peu comme vous, les Républicains, dans ce genre, à peu près dans ces eaux-là, qui se sont alliés aux socialistes. On a eu une alliance, là, du grand capital, et de la gauche, le contrôle des masses par la gauche, le contrôle du capital par la droite, c'est exactement les mêmes gagnants et les mêmes perdants que pour le Covid, quand on avait eu les votes sur le Covid. On retrouve toujours ces mêmes camps. Il y a un camp souverainiste et puis il y a un camp mondialiste. Et les souverainistes, il y a un parti et puis les mondialistes, c'est tous les autres. Donc, finalement, quand on est tout seul contre tout le monde, le résultat, moi, je dirais qu'il est même assez bon. Moi, je craignais qu'on soit à 40% ou en dessous. Alors là, ça aurait été pas très bon pour nous. Mais là, à 45,2 ou 45,4%, donc c'est parfait. Donc pour nous, on perd une bataille, mais on n'a de loin pas perdu la guerre. C'est pas fini. Parce que maintenant, la balle, elle est dans le camp acquis. Elle est dans le camp des autres en face. Nous, on avait une solution. Ils ont dit que ça allait pas. Bon, d'accord. Alors maintenant, vous avez reconnu qu'il y avait un problème, qu'on a abordé le problème réel qui existe, les prix des terrains, la cherté de la ville, le pouvoir des familles qui se détruit. On est un petit pays de 42 000 km², c'est pas grand-chose, et dont passé la moitié sont couverts de montagnes. Donc, alors la solution des Verts, c'est de densifier l'habitat. Ouais, on va finir comme les Japonais dans des tubes pour dormir si ça continue. Donc, le problème est posé. Et il n'y a pas de solution autre que de limiter l'immigration. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et les milliards qu'il va falloir investir, si on veut mettre les infrastructures au niveau, ça va nous coûter les yeux de la tête. Au niveau des assurances sociales, rien n'est réglé. Donc, au fond, ce vote, c'est juste de dire « Ouais, non, mais on ne veut pas limiter, mais on n'a pas de solution. » Voilà. Alors, le problème qu'ils vont avoir, c'est qu'ils ne vont pas pouvoir répondre à ces critiques grandissantes. Les gens vont de plus en plus se retrouver fragilisés financièrement, embêtés parce que les jeunes, ils peuvent plus construire parce qu'ils peuvent plus s'acheter le terrain, parce que c'est beaucoup trop cher. Ils vont se trouver dans les bouchons, ils vont se trouver constamment dans des situations de trop-plein, quoi. Et donc, la frustration va continuer à augmenter. Et puis nous, notre électorat continue à augmenter, même si c'est négatif pour le pays. Voilà un peu ce que je peux faire comme bilan, quoi.
Merci beaucoup, Oscar Freisinger. Benjamin Diesbach, donc, avez voté dimanche.
Oui, moi j'ai voté pour la restriction à 10 millions. Pour une raison qui est très simple, hein, c'est que connaissant ce qui est arrivé à la France, essayer d'éviter que ça arrive à la Suisse. Hein. Parce qu'en fait, ce que pose cette votation, et qui est très intéressante, c'est en fait un problème qu'on ne pose même pas en France. C'est-à-dire, est-ce que quelle va être la population française dans 30 ans ? Hein, on était 40 millions au début du XXe siècle. Aujourd'hui, on serait 70 millions. On ne sait même pas combien on est en France. Donc, ce que posaient les Suisses, c'était très intéressant parce qu'en fait, ils disaient... D'abord il faut rappeler aussi à nos auditeurs la situation de la Suisse. Hein. Ils étaient 7 millions... en l'an 2000, ils se retrouvent à plus de 9 millions. C'est une des croissances les plus importantes de population en Europe, à l'heure actuelle. Donc c'est complètement délirant. Et c'est évidemment lié aux accords qu'ils ont signés de libre circulation des personnes avec l'Europe, parce que se pose la question de, évidemment, du rôle mortifère de la communauté européenne sur la Suisse. Et en signant ces accords, en fait, ils ont permis cette explosion de la population, puisque le taux de natalité en Suisse est de 1,29 enfants par femme. Bon, donc, ce n'est pas les Suisses qu'on produit des Suisses, hein. C'est la population étrangère qui est soit de la population... Alors, M. Freisinger pourra nous... sera sans aucun doute plus au courant de la nature de cette population, mais elle est aussi européenne, hein. Elle vient d'Italie, d'Allemagne, enfin un peu partout. Et elle concurrence les Suisses aujourd'hui dans des métiers très différents. Ce n'est pas simplement la construction, c'est aussi l'informatique, les ingénieurs. Et donc, ça pose un problème, évidemment, pour les jeunes Suisses, de pouvoir trouver un boulot aujourd'hui en Suisse. Et donc, on voit s'annoncer ce qui est arrivé en France, c'est-à-dire la précarité. Hein, quand on ne contrôle plus ses frontières, quand il n'y a plus de souveraineté, eh bien, la situation économique se dégrade. Et donc, l'argument des gens qui étaient favorables au rejet de cette limitation, c'est de dire, pour maintenir notre niveau de vie, hein, c'est l'obsession, quoi, pour maintenir notre niveau de vie, il faut amener davantage d'immigration. Bon, moi, je pense que c'est un argument complètement fallacieux. Moi, je crois à l'adage, à ce que disait le général de Gaulle, hein, c'est que les minables ne sont jamais prospères. À la fin, hein, quand on abandonne sa fierté, sa souveraineté, eh bien, on finit par s'écrouler économiquement. Et l'idée que c'est un argument qu'on entend aussi en France, qui est de dire, pour maintenir notre niveau de vie, pour assurer nos retraites, il faut faire venir davantage d'immigration, mais c'est un argument qui est délirant, quoi, qui est absolument délirant, et qui est à la limite d'ailleurs de l'esclavagisme, hein, qui est l'idée que pour assurer le niveau de vie des boomers de cette génération-là, issus des années 60, il va falloir davantage d'immigration pour pouvoir les pousser dans les maisons de retraite et payer leur retraite. C'est un argument, franchement, qui est proche de l'esclavagisme moderne.
Lucien Rabouille, vous aviez une question.
Oscar Freisinger, vous nous parliez de l'étiage électoral courant de l'UDC qui se situe autour de 27, 28, 29%. Bon, un petit tiers de l'électorat. Et là, badaboum, vous arrivez avec 45% des voix. Alors, on s'interroge, puisque derrière ce chiffre 10 millions, derrière cette idée de limitation démographique, derrière cette idée aussi de trop-plein, la Suisse serait pleine. Eh bien, il y a d'autres thèmes que l'immigration, justement. Il y a ceux, par exemple, du bétonnage de la Suisse, ou de la France, d'ailleurs. Il y a ceux de l'étalement urbain. Alors, on se dit, cet argument...
Ça faisait partie, d'ailleurs, de la votation, puisque c'était oui à la protection de l'environnement et du paysage. Oui.
C'est la raison pour laquelle je posais d'abord une question naïve, pour permettre à Oscar Freisinger de...
Voilà. C'était pour défendre Oscar Freisinger.
Est-ce que, justement, qui sont ces électeurs qui vous ont permis de passer d'un petit tiers à 45%? Y a-t-il là, justement, des écologistes? On sait que c'est un parti qui pèse dans la vie politique helvétique. Y a-t-il des gens qui ont pris en considération ces éléments, outre effectivement cette donnée qu'impliquait monsieur, qui est une donnée assez basiquement identitaire, mais sur laquelle l'UDC est identifié depuis un certain nombre d'années?
On avait appelé cette initiative l'initiative de la durabilité, c'est pas pour rien. Et donc, oui, moi je pense qu'un certain nombre d'électeurs écologistes ont voté pour notre initiative. Ils n'oseront jamais le dire ouvertement, parce qu'on a dû aller chercher ces voix quelque part. Il y a les radicaux, alors comme j'ai dit, ceux qui sont à droite aussi. Mais évidemment, là, les milieux affairistes, c'est-à-dire les multinationales, les grandes entreprises globalisées, elles, ça ne les intéresse pas. Elles veulent de la main-d'œuvre bon marché. Au fond, la libre circulation, soyons clairs, c'est une spirale vers le bas des salaires. Vous créez la paupérisation, comme l'a dit M. Diesbach, c'est exactement ça. Vous paupérisez les gens, vous allez chercher du bon marché à l'extérieur pour ne pas devoir payer cher ce que vous devriez former sur place. De former un jeune Suisse pour un poste, je sais pas moi, médecin, etc., ça coûte cher. Vous faites venir les eurodocs, là, voilà, pas de problème, ça coûte beaucoup moins cher. C'est comme quand on achète dans le football, on va acheter des joueurs bon marché, on va faire monter leur prix de vente, et puis après on les revend plus cher ailleurs. C'est de l'esclavagisme moderne. On est exactement dans cette spirale-là. Or, on nous avait dit, Lorsque il y a eu la campagne sur la libre circulation, nous avait dit il y a 8 000 par année qui vont venir. Ça a été 80 000 par année net. Je parle entre ceux qui repartent et ceux qui viennent. Donc, c'est net, il y en a 80 000. 80 000. Donc, c'est une ville d'une certaine importance en Suisse, de plus de gens, chaque année. Et puis ensuite, on se plaint. Oui, on veut plus de centrales nucléaires. Ah oui, mais on va chercher où l'électricité. On veut pas une autoroute à 6 pistes. Alors comment éviter les bouchons? On veut pas bétonner le paysage. Non, mais ce que je trouve complètement débile dans cette histoire, c'est que les gens, ils veulent tout, mais leur contraire aussi. Donc, il y a un moment donné, il faut se poser la question, la qualité de vie, à quel moment elle commence à basculer? Et dans la qualité de vie, il y a l'environnement, il y a les salaires, il y a les assurances sociales, il y a la qualité de vie, ça englobe tout, le panier de la ménagère, le prix des terrains, il y a tout qui est impliqué là-dedans. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a voté dimanche? On a voté de rien faire. Alors, ils sont tous mécontents. Et je peux vous dire, même ceux qui ont encore voté non à notre initiative, il y en a beaucoup qui sont mécontents. Mais ils n'ont pas osé parce que « Ah non, mais donc, on va être avec l'Union européenne et puis ça pose des problèmes. » Et puis après, y en a qui craignaient, qui se disaient « On n'aura plus d'infirmières dans les hôpitaux » parce que le ministre en question, il est allé, mais il a menti, mais comme un arracheur dedans. Mais c'est incroyable. Trump à côté, c'est un petit gamin. Hein, il a été leur dire « Demain matin, on va fermer l'hôpital de je ne sais plus quelle grande ville. Il sera fermé, voilà. » Mais c'est absolument faux. Ça n'a rien à voir. Et donc, la chose est disons, pour nous, en tant que parti, c'est une bataille, il faut gagner la guerre. Donc, on continue, le combat continue, il n'y a rien qui a été résolu hier. Et il y aura d'autres échéances qui vont venir et qui seront aussi tout aussi importantes, mais je pense qu'il y aura une érosion très forte du parti radical aux élections de l'année prochaine, donc de ceux qui sont les républicains un peu chez nous. Je pense qu'eux vont perdre beaucoup de voix. Parce qu'ils ont en plus des décisions qui vont contre, à l'encontre même de la démocratie directe. Ils sont de plus en plus, on voit, achetés, comme on le voit avec BlackRock, Merz en Allemagne, comme on le voit avec Macron. On sait très bien quels sont les grands tireurs de ficelle, les grands capitaux qui sont là derrière. Et de plus en plus, on a ce mécontentement des gens par rapport à cette situation. Moi, je pense que ça va payer un jour pour nous. C'est-à-dire que la démocratie directe nous donne un instrument institutionnel. Vous, en France, vous n'avez pas cet instrument institutionnel. Vous pouvez toujours que voter comme les Américains. Vous votiez démocrate ou républicain sur la politique étrangère, ça change rien. Chez nous, il y a des alternatives. Et il y a la démocratie directe qui est un instrument, un levier, où le peuple a toujours quand même encore le dernier mot, pour le moment en tout cas.
Oui, mais si on vous écoute, ce vote n'a pas un caractère forcément contraignant. Vous nous parliez de la votation concernant l'expulsion des délinquants étrangers. Vous nous parliez également d'une autre mesure qui avait réussi à faire passer l'UDC. Richard de Sèze l'évoquait en début d'émission. Et puis vous nous dites que voilà, arrivé au Parlement, au gouvernement, au Conseil fédéral, on ne sait pas, auguste organe dont vous fûtes d'ailleurs membre, eh bien, ces mesures qui, en principe, Vox Populi, Vox Dei devraient s'appliquer de façon automatique, ont été, je ne sais pas, freinés, dépouillés, que s'est-il passé? Est-ce que vraiment cette démocratie directe, ces votations, ont vraiment un caractère aussi impératif que théorique?
Alors, Oscar Freisinger, si je peux me permettre, juste avant que vous ne répondiez, il y a quelque chose qui était très intéressant, justement, dans l'initiative Pas de Suisse à 10 millions, c'est que si l'initiative avait été votée, ça a impliqué des changements constitutionnels.
Oui, exactement. Donc ça, évidemment, ils en ont peur. Le problème des initiatives précédentes, c'est qu'elles laissaient une marge d'interprétation. Alors celle de 10 millions, c'est beaucoup plus, c'est un chiffre précis. Mais moi, je vous donne un exemple. J'étais le leader, si on veut, dans les débats et tout. J'avais un peu pris ça à ma charge. C'était sur l'interdiction des minarets. Je peux vous dire, oui, il n'y a pas de minarets en Suisse. Hein. C'est clair, le peuple a voté, il n'y aura pas de minarets, il n'y a pas de minarets, point. Donc là, avec cette initiative, ça aurait été suffisamment contraignant pour qu'ils étaient contraints par les chiffres. Alors après, il aurait fallu faire quoi? Pour avoir quand même la main-d'œuvre, ils auraient dû commencer à sélectionner, à mieux sélectionner, à ne pas faire rentrer que des cas sociaux, hein, parce qu'ils font rentrer beaucoup de cas sociaux, beaucoup de criminalité, etc. Là, ils auraient pu, ils avaient une marge de manœuvre. Mais ce que je trouve fou dans ces partis centristes, c'est cette lâcheté, mais les socialistes qui fragilisent leur propre base électorale qui depuis longtemps d'ailleurs vote pour nous parce qu'ils ne travaillent plus pour le prolétaire. Eux, ce qui les intéresse, c'est le gender, le wokisme, c'est de savoir s'il faut pisser debout dans les toilettes. Voilà ce qui les intéresse. Mais c'est dramatique. Alors que à la base, pour moi, j'ai beaucoup de respect pour les syndicalistes du début du XXe siècle qui nous ont amené nos assurances sociales comme l'AVS et ces choses-là. Ça, c'était encore des gens qui travaillaient pour le simple Pékin. Mais là, non, on veut une grande masse de dépossédés. Au fond, plus on a un prolétariat qui ne sont pas propriétaires, parce qu'on s'attaque beaucoup aussi à la propriétaire privée, et donc, avec ça, on a des gens dépendants, et l'État, ben, il dirige en maître. Alors que les paysans, par exemple, on les laisse tomber. Pourquoi ? Parce que c'est l'homme libre sur son lopin de terre, etc. Vous avez les mêmes mécanismes qu'il y avait, si on veut, dans la Russie communiste, où, par exemple, les paysans, c'était les koulaks, et les koulaks, c'était devenu une insulte. Vous avez le même phénomène qui se reproduit maintenant. Et c'est toujours la même chose. Vous avez des élites, soi-disant élites, il y a le grand fric là derrière, on veut battre toutes les frontières, les différences, il ne faut pas d'identité. Mais ce qu'on ne remarque pas, c'est qu'il ne saurait y avoir de liberté sans frontières. La frontière, elle détermine une identité. Et s'il y a une identité, s'il y a diverses identités, il y a un choix. Et s'il y a un choix, il y a la liberté. Dès le moment où vous avez simplement abattu les frontières, créé un énorme melting pot, vous avez juste agrandi la surface de la prison. C'est tout, mais vous avez créé une prison planétaire. Et ce n'est pas ça, parce que le choix a disparu. Et c'est exactement le modèle des Davosiens. Hein. Ils sont en Suisse, hein, Klaus Schwab. Je vous rappelle Klaus Schwab, Covid-19, The Great Reset. Si vous regardez son plan, vous ne posséderez plus rien, mais vous serez heureux. Ah bah merci. c'est pour moi, c'est pas mon modèle.
Mais cher Oscar Freisinger, vu de France, on associe souvent la Suisse à une économie rentière, à un pays un peu plan-plan pot-au-feu qui aime beaucoup son confort. Et vous nous dites que finalement, ces arguments, cette peur autour de est-ce qu'on va encore avoir des domestiques, est-ce que des gens vont encore nous pousser dans les EHPAD, est-ce que la Suisse ne paye pas finalement l'habitude qu'elle a prise à être assise sur une grande rente, qui est celle, enfin, on associe ça parfois à l'économie bancaire, à un mode de vie, à aussi les clichés autour de gens qui parlent lentement, etc. Est-ce que la Suisse n'est peut-être pas plus encore que la France, ou donc, en tout cas au même niveau que la France, gagnée par justement cette primauté du confort et de l'appétit pour les choses matérielles, au dépens de tous les raisonnements et de toutes les projections que vous invoquez ?
Je veux bien, mais l'image est faussée. En Suisse, nous avons de la pauvreté. Simplement, les Suisses sont discrets. Ce n'est pas des gens qui vont manifester. Ce n'est pas dans leur tendance générale. Donc, c'est un peu masqué. On a réussi, par le double emploi des hommes et des femmes, on a réussi à masquer le perte de pouvoir des familles. Quand on nous dit, oui, mais on va manquer de travailleurs, on va manquer de main-d'œuvre parce qu'il y a un vide. Mais c'est pas un vide. Oui, parce que regardez, on n'a plus qu'à 1,29 enfants par famille. Donc il y a une dénatalité, on doit la compenser par l'immigration. Non, excusez-moi, il faut exactement inverser l'argument. C'est parce qu'ils ont créé artificiellement un trop-plein que les perspectives sont complètement bouchées, que les jeunes, ils peuvent plus avoir 2, 3, 4 enfants, c'est fini. Parce qu'ils n'arrivent plus à se les financer, parce que les terrains sont trop chers, le pouvoir d'achat, il a culbuté. C'est l'inversion même de la logique. Eux, ils créent le fait accompli. Puis ensuite, c'est ce qu'on appelle le jeu de l'avion, un Ponzi scheme, hein, comme on dit. Il faut continuer l'inflation, il faut continuer la surenchère. Vous continuez à faire rentrer des gens qui vont s'occuper des gens qui sont rentrés avant. Au fond, vous ne faites que créer une surchauffe. À un moment donné, la bulle, elle explose. Il y a toujours un moment où ça pète. Et c'est ça qu'on a voulu, nous, interrompre à un certain moment. On s'est dit stop. Et là, c'est très écologiste. Je veux dire, on a ici une réaction carrément écologique de l'UDC de dire, non, mais attendez, vous ne pouvez pas, il y a un organisme là, il a ses règles, et vous ne pouvez pas surcharger la chose et vous allez tuer la bête que vous voulez traire. Et c'est malheureusement le peuple, bon, bah, pour le moment, il a pas suivi. Maintenant, on verra ce que l'avenir nous amène, mais le mécontentement va augmenter. Il n'y a aucune solution. Ah oui, alors les socialistes, tout de suite, le lendemain, ils viennent. Alors, il faut qu'on introduise le salaire minimal. Ah oui, bon, d'accord, puis ça règle quoi ? Ça règle quoi d'introduire le sacré ? Vous allez attirer encore plus de crève-la-faim de l'extérieur. Ah oui, vous pouvez faire ça, mais vous avez absolument. Il dit que c'est la solution au problème qu'avait évoqué l'UDC. Non, je ne vois pas en quoi. Alors qu'on m'explique, ça n'a rien à voir. Donc, ils n'ont pas de solution. Et pendant tout le débat, ils n'avaient pas. À part de dire que notre solution n'était pas la bonne, il n'y avait rien en face de crédible pour nous expliquer comment régler ce problème d'une immigration complètement désordonnée. Je ne suis pas contre le principe d'immigration. Mon père est venu d'Autriche dans les années 50 avec un contrat de travail, sinon il ne passait pas la frontière. Les conditions étaient restrictives. Il est venu, il a créé une famille, s'est intégré, tout a fonctionné. C'est, donc je suis fils d'immigré, si on veut. Ma maman était suissesse, mais mon papa est immigré. Mais c'était, on avait des règles. C'était une immigration choisie, une immigration sous contrôle, avec certains garde-fous. Maintenant, il n'y a plus. C'est, chacun, il rentre comme il veut, comme dans un moulin. Et moi, alors, où je suis bien placé, j'ai été ministre dans mon canton, je peux vous dire les chiffres de la criminalité dans les prisons suisses. Eh ben, ceux du passeport suisse, si c'est plus que ça, les criminels qu'on doit gérer, eh ben, on n'a pas beaucoup de problèmes dans ce pays. Mais à Genève, c'est passé 90%, ça veut dire 90% de gens dans les prisons qui n'ont pas le passeport suisse. Faut pas venir m'expliquer. On importe de la criminalité. Je dis pas que tous les étrangers sont des criminels, je dis juste qu'on importe de la criminalité. Mais le pays n'est pas aussi riche qu'il paraisse à l'extérieur. Je veux dire, les citoyens du pays ne sont pas aussi riches que ce qu'on veut faire paraître vers l'extérieur. Évidemment, on a Nestlé, évidemment, on a les grandes banques, etc. Mais le tissu essentiel du pays, c'est les PME. Et qui on a fait saigner pendant toute la campagne du Covid, c'était les PME, et c'est encore elles qui souffrent. C'est jamais le grand capital mondialisé. Donc, on a que deux parties dans ce monde. Il y a les mondialistes et les souverainistes. On peut réduire les combats actuels à ça.
Benjamin Diesbach, dans les discussions que vous aviez au moment où vous argumentiez avec vos camarades suisses pour ou contre, quel était l'argument qui revenait le plus souvent et quel est celui que vous avez envie de mettre en avant ?
Pour, vous voulez dire ?
Oui.
Pour voter pour la restriction. Et c'est ce que je disais, c'est qu'il me semble que la Suisse est en train de vivre ce que la France vit depuis 30 ans. Et que la seule solution, c'est effectivement d'imposer un chiffre, parce qu'au moins c'est ce que disait Oscar Freisinger, c'est que au moins c'est une limitation claire, et d'essayer de retrouver, si vous voulez, une fierté de l'indépendance, hein, qui a fait la force et la richesse de la Suisse, hein. C'est que c'était un petit pays, mais un petit pays bien organisé, où en effet on contrôlait les choses, et qui faisait qu'à la fin il y avait une prospérité qui se dégageait. À partir du moment où vous ouvrez les frontières, hein, et que vous acceptez que n'importe quelle population puisse s'installer chez vous, c'est que déjà vous avez perdu cette fierté. Et donc c'est pour ça que c'était important, à mon avis, ils ont perdu malheureusement. Maintenant, il y a quand même effectivement 45%. Il y a même dans certains. Je voulais poser cette question justement à Oscar Freisinger, parce que il y a une sociologie quand même aussi du vote. Hein.
Oui, Genève a fortement voté contre l'initiative.
Il y a une opposition entre les campagnes et les villes. Il y a une opposition entre les cantons alémaniques et les cantons romands. Et je dois dire, ce qu'il y a de plus incroyable, c'est que deux des trois cantons qui sont à l'origine de la création de la Suisse, hein, en 1291, hein, qui est Uri-et-Schwitz-Unterwald, Uri-et-Schwitz ont voté à majorité pour la restriction de population. Alors que les grandes villes, Bâle, Zurich, Genève surtout, ont voté et Neuchâtel ont voté à très grande majorité pour le rejet. Donc il y a une véritable division, et je me demande si cette division ne va pas grandir dans l'avenir, comme elle a grandi dans tous les grands pays occidentaux, hein, que ce soit les États-Unis, l'Angleterre, la France. Et donc c'était la question que je voulais poser à Oscar Freisinger sur cette division de la Suisse.
Oui, 10 cantons ont accepté le texte, quand même, 10 cantons. Alors pas mal de petits cantons plutôt agricoles suisse-allemands, donc plutôt des campagnes. C'est vrai que les centres urbains, c'est toujours eux qui font la différence. Si vous prenez par exemple des votations dans des cantons comme Zurich et puis par exemple Vaud, le canton de Vaud, généralement les résultats donnent un candidat de droite gagnant, et puis après c'est la ville de Lausanne qui fait tout basculer à gauche. Mmh. Et c'est la même chose avec Zurich. Donc vous avez toujours ce phénomène. Les socialistes, la gauche verte, rose verte, c'est généralement des rats des villes. Puis il y a les rats des champs et les rats des villes. Et eux, ils sont dans les villes. Et les cassos aussi sont dans les villes. Et les problèmes sont dans les villes. Donc, on casse tout, par exemple, c'est dans les villes, c'est pas dans les campagnes qu'on va tout casser. Les gens qui viennent vivre dans les campagnes, généralement, s'intègrent relativement bien. Parce qu'on évite la création de ghettos. Alors que dans les grandes villes, les ghettos se forment. La France, vous avez beaucoup d'avance là-dessus par rapport à la Suisse, parce qu'on a peu de vrais centres urbains. Il y a à Bâle, il y a un ghetto, à Lausanne, ça commence aussi. Mais enfin, on est encore, par rapport à la France, dans l'état embryonnaire. Mais il y a ce problème. Et je pense que cette densification dans les grandes villes, de vivre les uns sur les autres, c'est comme les lapins, si vous en mettez 10 dans le même clapier, ils vont finir par se bouffer les oreilles. C'est exactement le même phénomène. Donc, c'est pour cette raison, pour préserver ce... donner du vent de la chemise, donner un peu d'air pour respirer, c'était ça l'idée. Mais la différence est quand même assez grande entre les différentes régions et puis entre les grands centres urbains et puis les campagnes, ça c'est clair.
Oscar Freisinger, vous l'avez souligné dans vos développements, et c'est aussi partie d'ailleurs de la très bonne brochure qui a été éditée avant la votation avec les arguments pour et contre. Ceux qui voulaient limiter la Suisse à 10 millions, avec d'ailleurs un seuil à 9,5 millions qui déclenchait toute une série d'actions législatives, dont les modifications constitutionnelles, mettaient en avant le fait que l'Union européenne était un danger parce que la manière dont la Suisse, avec ses accords bilatéraux, était rentrée peu ou prou dans le cadre de l'Union européenne, c'était aussi les accords de Schengen, les accords de Dublin, autrement dit une libre circulation des personnes qui était gênante. Et au point que récemment, la Suisse même a commencé à expliquer qu'elle prenait position dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qu'il fallait revoir la politique de défense suisse et se rapprocher de l'OTAN. Il y a une seconde votation qui est en ligne qui va arriver, qui est justement sur la préservation de la neutralité suisse, parce que cette votation sur pas de Suisse à 10 millions. En fait, c'était déjà une action contre l'Union européenne qui était accusée d'avoir facilité cette immigration. Et donc là, vous voulez aller encore plus loin. En tout cas, ceux qui sont à l'origine de la votation sur la préservation de la neutralité suisse, la redéfinition exacte de la neutralité suisse, ont là aussi les mêmes griefs. C'est-à-dire l'Union européenne est en train de dissoudre la Suisse.
Oui, le problème, c'est que, voyez, on a un exemple typique d'un pays qui était neutre traditionnellement et qui maintenant fait partie de l'OTAN, c'est la Finlande. Et nous, on aimerait éviter que la Suisse tombe dans le piège de la Finlande. Parce que la Finlande, elle avait de très bonnes relations avec les Russes. Le tourisme en Carélie, c'était les Russes principalement. Ils avaient les hydrocarbures bon marché. Ils avaient d'énormes avantages de vivre en paix avec leurs grands voisins. Et à aucun moment, ces dernières 50 années, enfin depuis la Deuxième Guerre mondiale, moi j'ai vu la moindre velléité des Russes, même dans la phase communiste, j'ai vu aucune tentative de la Russie d'envahir la Finlande. Il n'y avait pas d'angoisse à ce niveau-là. Et tout à coup, puisqu'on devient membre de l'OTAN, donc tout à coup, on n'est plus neutre. Ensuite, il y a l'OTAN qui veut créer des bases, voire même des fusées sur le territoire des Finlandais. Ah ouais, alors s'il y a une déflagration majeure, c'est eux les premiers qui ramasseront les missiles russes sur la tête. Et puis, je peux vous dire que les Russes, ils en ont des missiles. Donc, maintenant, il y a la peur. Maintenant, il y a une précarité qui s'installe et tout ça, parce que c'est une politique totalement erronée. Moi, je pense que je reviens toujours à cette idée de De Gaulle, un grand espace eurasien, économique eurasien entre l'Atlantique et l'Oural. Ça, c'était l'avenir de l'Europe. Ça aurait été l'objet. Et pour ce faire, donc nous, en tant que Suisses, là-dedans, et on l'a vécu à deux reprises avec le Kaiser en 14-18, mais surtout après, quand on était entouré par les forces de l'Axe, rester neutre, alors que c'est une neutralité qui est entérinée, donc elle existe, si on veut, dans ses embryons déjà en 1648 avec la paix de Westphalie après la guerre de 30 ans. C'est là que ça a commencé. Puis ensuite, ça a été entériné en 1815 au congrès de Vienne, et le tsar Alexandre a été une des forces motrices pour que la Suisse devienne un pays européen, pour éviter que les grandes nations se fassent la guerre pour occuper les cols alpins, donc pour se rendre maître des cols alpins. Et puis ensuite, ça finalement, en 1900 et quelques, ça a été encore entériné par l'ONU, etc. Donc, on a été considérés comme neutres. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? Puisque cette définition de la neutralité, qui devrait être armée, durable, pérenne et armée, tout à coup, on a inventé une sorte de concept de, oui, la neutralité dynamique. Ah ouais, dynamique, ouais, ça veut dire au petit bonheur la chance, un coup par-ci, un coup par-là. Donc, ce qui fait que on a, par exemple, fait une conférence de la paix. Pour donner un exemple, après une année ou deux ans, une année et demie après le début du conflit en Ukraine, on a fait une conférence de la paix au Burgenstock. Ben, il y avait qu'un camp qui était invité, il y avait que l'OTAN qui était invité. Mais c'est pas possible, ça. Et on n'invite même pas l'autre partie. Ben, moi, je pense qu'une négociation réussie, c'est quand les deux parties négocient. Et puis qu'il y a un intermédiaire, et la Suisse pouvait offrir ses bons offices tant qu'elle était considérée comme neutre. Maintenant, on considère que le Pakistan et la Turquie sont plus neutres que nous. Donc, vous imaginez où on est arrivé. C'est dramatique. Et donc, ça, on a perdu. Ensuite, quand vous avez la Croix-Rouge qui intervient partout sur la planète, si elle est l'émanation d'un pays neutre, l'acceptation de cette Croix-Rouge sera beaucoup plus grande. Si vous êtes un partie prenante d'un des camps dans le conflit, ça ne va pas être possible. Vous mettez en péril votre intervention humanitaire et la Croix-Rouge avec ce fait-là. Ensuite, sur les sanctions, on a réussi à prononcer, non mais champion du monde, je crois qu'il y a juste les Britanniques qui sont pires que nous, mais ou bien on est tout proche. Hein, donc, on a prononcé un monstre paquet de sanctions contre la Russie, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, les sanctions? Bah, c'est juste le prétendu plus fort qui essaye de pratiquer la coercition sur le prétendu plus faible. Mais ça n'a aucune base légale, rien, à moins qu'éventuellement ce soit entériné par l'ONU, mais dans ce cas-là, ce n'est pas du tout le cas. Donc, on ne comprend pas comment la Suisse, à un moment donné, elle devient partie prenante. On nous dit maintenant, il faut intégrer notre armée dans l'OTAN, etc., etc., etc. Donc, c'est parce que ça gêne ce petit pays-là au milieu qui donne le mauvais exemple où le peuple a encore le dernier mot. Ça ne va pas aux élites. Ça ne plaît pas à von der Leyen et consorts. On sait quel est leur concept, la démocratie. Vous n'avez pas de séparation des pouvoirs réels en Union européenne. Il y a des ingérences systématiques dans les élections. On a vu ça en Moldavie, en Roumanie, un peu partout. Donc, c'est devenu une sorte de d'URSS à la mode occidentale, une sorte de soft totalitarisme. C'est évidemment plus le stalinisme, mais c'est quelque chose qui en a quand même les ferments. C'est un peu du Ceausescu, si on veut. Moi, j'ai un ami roumain qui me dit, c'est marrant, il y a de plus en plus de traits de caractère de la Roumanie de Ceausescu que je rencontre maintenant ici dans l'Union européenne. Donc, et nous, la Suisse, nous avons encore la chance, justement, de pouvoir décider nous-mêmes. Et pour ça, la condition, une des conditions de notre souveraineté, c'était aussi cette neutralité. Parce que l'un soutient l'autre. Vous êtes souverain, mais vous êtes neutre parce qu'en étant neutre, vous êtes du côté des victimes. Et les victimes sont toujours dans les deux camps. C'est-à-dire, qui est le gentil et le méchant entre les Israéliens et le Hamas ou le Hezbollah? Je veux dire, c'est pas à nous de juger de ça. Je veux dire, il y a un conflit, ils se tuent parmi. Nous, on vient aider, on va essayer peut-être de faciliter les négociations, mais c'est pas à nous à distribuer les bons et les mauvais points. Et surtout quand c'est les États-Unis et les Russes qui se tapent sur la gueule. Je vous donne un exemple concret. Depuis 1991, hein, donc la fin de l'URSS. Est-ce que l'ennemi, c'est les Russes ou c'est les Américains pour la place financière suisse? Je peux dire, vous pouvez demander à qui vous voulez. C'est les Américains l'ennemi, c'est pas les Russes. Les Russes ne nous ont jamais enquiquinés depuis 1991. Jamais on a eu de problème avec les Russes. Par contre, les Américains ont tout fait pour détruire la place financière suisse. Et on était à 35% de fortune privée mondiale qu'on gérait en Suisse. On est descendu, maintenant, je crois qu'on est en quelque chose comme 22%. Donc, cet affaiblissement, on le doit à qui? Aux Américains? Non, mais je vous dis, c'est le pire dans le monde, c'est d'être l'ami des Américains. C'est pire que d'être leur ennemi. Et ça, il faut intégrer. Alors, si vous êtes neutre, eh ben, vous arrivez quand même à mieux vous en sortir. Il n'y a pas besoin de tout le temps mettre son grain de sel. Il y a des moments, une discrétion. C'est ce qu'on faisait très bien, certains moments. On n'est pas dans les grandes déclarations. On n'a pas de pouvoir personnalisé fort en Suisse. On n'a pas de Louis XIV réincarné ou quelque chose comme Macron qui se prend pour Jupiter. Ça n'existe pas en Suisse. Donc, on a une certaine modestie, mais un certain pragmatisme aussi. Est construit sur des équilibres, des savants équilibres à l'intérieur du pays. Il y a le fédéralisme, il y a la subsidiarité. Vous avez tous ces savants équilibres qu'on met maintenant en péril pour participer à la grande esbrouffe, prendre le train de l'UE qui fonce vers l'abîme. Alors non, mais c'est fantastique. Alors ouais, non, mais c'est vraiment à quoi grimper les murs. Alors donc, la neutralité, c'est très important parce qu'elle nous donne cette position privilégiée par rapport à ce qui a toujours fait notre force, ce qu'on pouvait offrir aux pays de la planète en étant réellement neutre. Et malheureusement, dans la Constitution, la neutralité, elle est évoquée deux fois, mais de manière pas assez précise. Alors nous, on veut essayer de préciser le terme pour que réellement ce soit une neutralité et pas juste on est neutre selon comment le vent y tourne. Ça, c'est pas de la neutralité, ça c'est de l'opportunisme.
Merci beaucoup, Oscar Freisinger. Dans cette votation sur la neutralité, je suppose, de Benjamin Disbach, que vous allez revoter.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Alors, vous choisissez quoi comme...
Bah, écoutez, après le plaidoyer d'Oscar Freisinger, je vais voter pour la neutralité. Non, mais je pense que, en fait, c'est la conséquence inévitable de la perte de contrôle des frontières et donc de la souveraineté. Donc, en fait, la Suisse est en train de se faire aspirer par le système... de la communauté européenne et donc de son intégration à l'OTAN, parce que tout ça va ensemble. Et ce que disait Oscar Freisinger sur le fait que ce petit pays dérangeait beaucoup les élites mondialistes, je crois qu'effectivement c'est le grand problème. Et c'est ce que doivent défendre les Suisses, cette fierté, cette souveraineté d'être maître de son destin.
Lucien Rabouille, quand on voit que la Suisse est une épine dans le flanc de l'Europe, c'est absolument pas la perception que les Français en ont. On a l'impression d'un pays retiré, à côté, en dehors du jeu.
Il y a une condescendance coupable des Français à l'endroit des autres pays francophones, il me semble. À l'endroit de la Belgique, à l'endroit du Québec, peut-être à l'endroit de la Suisse. Et d'ailleurs, peut-être qu'elle le perçoit comme ça. Puisque je crois que l'UDC a mené des campagnes, par exemple, où on invoquait l'immigration française, spécifiquement française de Lausanne ou de Savoie, comme étant un risque pour l'identité suisse. Mais c'est vrai que c'est ce que nous dit Oscar Freisinger, une Suisse qui, dans sa neutralité, défie l'ordre du monde tel qu'il va, défie cet affrontement entre les deux Europes, Europe orientale et Europe occidentale, qui semble se définir. Cette Suisse qui, dans sa neutralité, émet une politique et une géopolitique, c'est décoiffant pour un Français. Parce que le syndrome Louis XIV, le syndrome Napoléon fait qu'on
Le syndrome Napoléon et Macron, je suis d'accord, sur le syndrome Louis XIV, ça nous entraînerait un peu trop loin.
Une partie des monarchistes peut être assez critique à l'endroit du roi Soleil, et c'est pas où je vais apprendre. En tout cas, ce syndrome de grandeur hypertrophiée, justement, qui explique que la France ne peut avoir une voix qui n'est écoutée qu'au moyen d'une très grande politique... en fait, une nostalgie impérialiste, je réfléchissais en écoutant Oscar Freisinger qu'une France, en fait, isolationniste, considérée unanimement comme le plus beau pays du monde...
C'est De Gaulle,
dans lequel... Alors, ce n'est pas tout à fait le général De Gaulle, justement, mais ce vers quoi s'orientait parfois le général De Gaulle, qui a beaucoup hésité, il faut quand même... Mais une France isolationniste, justement, pays dans lequel le monde entier veut vivre, première destination touristique du monde, pays considéré aussi comme étant la... plus beau paysage, plus bel art de vivre, pays de la douceur de vivre, pays qui est identifié comme tel, avec la plus grande capacité de séduction et de soft power, pourrait être en fait tout à fait une grande Suisse. Mais une grande Suisse telle que l'a connue Oscar Freisinger il y a une vingtaine d'années, avec un SMIC à 3000 euros, avec des femmes de ménage qui, même elles, sont très bien payées, avec une paysannerie libre qui prospère. Donc, ce que disait Oscar Freisinger m'intriguait vraiment, cette idée qu'on puisse avoir une grande politique dans la neutralité, en traçant son chemin, justement, et sans nostalgie impérialiste ou sans être lié par des milliers d'accords à droite à gauche.
C'est cette souveraineté-là que vous voulez défendre, c'est pas juste le fait d'être replié sur soi-même, comme dirait un mondialiste.
Un modèle en étant exemplaire, et pas en donnant des leçons aux autres, justement. Déjà être exemplaire de son côté, finalement le général de Gaulle a eu des phrases assez similaires d'ailleurs sur la position de la France. Être souverain en étant exemplaire, et à partir de là, servir d'exemple à l'univers, comme dirait le dramaturge.
Vous l'embauchez à l'UDC, Oscar Freisinger, ou pas?
Oui, quand il veut, hein, c'est bon. On va le nommer membre d'honneur. Mais c'est vrai qu'on doit prêcher par l'exemple, pas par les paroles. Les paroles, ça ne coûte rien. C'est par l'exemple. On voit que, par exemple, chez nous, la quote-part d'État, on est dans les 35%, quelque chose comme ça. Mais en France, c'est le double. Mais comment ils font les Français? Moi, je suis étonné, mais comment font les entrepreneurs français pour survivre dans un système aussi vorace? C'est absolument terrible. Ensuite, le rapport... du français avec le fisc. C'est un rapport de police. C'est-à-dire, vous avez le fisc qui est comme une sorte de super flic qui flique les entreprises, c'est un instrument punisseur. Alors que chez nous, justement, on avait cette distinction entre la fraude fiscale et l'évasion fiscale. L'un est pénal, l'autre pas. Donc, vous n'avez pas trafiqué de chiffres, etc. Vous n'avez pu faire des erreurs, c'est tout. Mais vous aviez cette distinction aussi. Ce qui fait que le citoyen en Suisse, il est le souverain. Donc, il est aussi un partenaire de l'État. Et partout, Yvan Blot avait écrit un excellent livre sur la démocratie directe et il avait prouvé que partout où il y a la démocratie directe, vous avez la quote-part de l'État qui est basse. Parce que c'est comme si les citoyens étaient amenés à gérer leur portefeuille, si on veut. C'est comme si on gère ses propres affaires. C'est toujours meilleur que quand on donne ça à gérer les incompétents de plus en plus qui sont nommés. Parce que de nos jours, si vous voulez avoir un succès aux élections, il faut avoir des casseroles. et il faut être incompétent. Là, c'est sûr que vous allez trouver un quelconque financier qui vous aligne l'argent. Pourquoi ? Parce qu'il va pouvoir vous contrôler. Vous savez que vous êtes incompétent, en plus vous avez des casseroles, donc il vous tient. Regardez tout ce qui se passe avec les Epstein Files. C'est exactement le problème de la politique américaine. Pourquoi Trump, il va s'enfiler en Iran, ce grand con ? Pourquoi il a fait ça alors que c'était tellement prévisible ? Non, mais enfin, moi, je suis sur GPTV assez souvent. Un an et demi avant, pas un an et demi, là, j'exagère un peu, mais quelques mois avant qu'il attaque, on se disait, mais Trump, il ne peut pas commettre cette erreur. Enfin, c'est débile. Il y a la moindre analyse, ça ne tient pas la route. Mais il va croire le Mossad et Israël. Pourquoi ? Parce que finalement, on voit que le pays le plus puissant du monde n'est qu'une extension d'Israël. Et puis que finalement, Israël a plus de pouvoir sur le Congrès américain que son propre président. Mais vous voyez, ce genre de phénomène, ça, avec un système comme la Suisse, proche de la terre, parce qu'il faut rappeler que la Suisse a été fondée par des paysans, par des agriculteurs. C'était sur une terre qui n'était pas très riche. On n'a pas de matières premières hors du commun ici. On a juste nos barrages, ça, pour l'électricité. Mais sinon, il n'y avait pas. Et donc, en copiant les mécanismes d'équilibrage, de rééquilibrage constant de la nature, en partant de la nature, et pas d'une aristocratie, de vraiment des gens qui, partant de leur propre vécu, de leur quotidien, de leur proximité avec la nature, ont créé un modèle carrément métaphysique qui a mis des siècles à se bonifier. C'est quelque chose qui a cru organiquement à travers les siècles. Ça, c'est valable, parce que c'est au service vraiment encore des citoyens. Maintenant, évidemment, nous avons nous aussi une élite complètement dévoyée. De plus en plus, c'est des incompétents qui sont achetés, qui ont de multiples conseils d'administration, qui défendent des intérêts particuliers, plutôt que de défendre un élément principal pour n'importe quel magistrat. Et moi, je m'y suis toujours tenu, c'est le bien commun. Vous pouvez commettre des erreurs, c'est sûr, mais au moins que vous le fassiez en bonne foi, sans être acheté. C'est ça. Et on vit cette corruption. Vous avez ces deux phénomènes, la financiarisation des rapports humains et la chosification qui en résulte, c'est ce qui est en train de détruire les démocraties. Il faut relire Alexis de Tocqueville de La démocratie en Amérique, je crois que ça a été publié en 1850 par là autour. Il faut relire parce qu'il annonce tout ça. Le type, il a passé 200 ans d'avance, il voit déjà ce qui va arriver. Et on y est maintenant dans ce piège. C'est un terrible piège.
Alors, Oscar Freisinger, merci, et notamment d'avoir rappelé le développement organique des lois de la Suisse. C'est le moment aussi de vous dire que, puisque vous avez envie de lutter contre le fisc, chers auditeurs, n'hésitez pas à défiscaliser en donnant à Radio Courtoisie. Vous pouvez justement arracher à l'État 60 à 66% de vos impôts, suivant que c'est une personne morale ou une personne physique qui donne. Donc, n'hésitez pas à donner à Radio Courtoisie, soutenir.rc.fr. Voilà. Si vous avez envie de soutenir la liberté d'expression, si vous avez envie de soutenir une radio qui énerve Delphine Ernotte, autrement dit, si vous avez envie d'être du côté de la vérité et de l'humour, voilà, il y a un seul choix qui me paraît évident, c'est soutenir Radio Courtoisie. Benjamin Diesbach, sur cette initiative sur la neutralité, sur l'excellence du modèle suisse, pensez-vous que la France soit capable de mettre enfin en marche un certain type de référendum ? Pensez-vous que le référendum d'initiative populaire verra le jour un jour ?
Ça, c'est compliqué, hein, parce que franchement, je pense qu'on a beaucoup de leçons à prendre des Suisses. L'organisation de ces référendums, qui est absolument extraordinaire. Hein, vous avez parlé de ce livret rouge qui explique de manière très pédagogique, en fait, les différentes lois. Parce qu'en plus, on votait sur deux lois. Hein. Il y avait la restriction à 10 millions, mais il y avait aussi la restriction du service civil. Et donc qui explique parfaitement une, je sais pas, 50 pages ce que sont ces deux lois et les différents angles, les différents avis de partis, du gouvernement. Donc c'est vraiment très très bien fait. Si on le compare à l'espèce de la Constitution européenne, espèce de pavasson qu'on avait sous Chirac envoyé à chaque Français et qui était censé se lire ça après le travail, après une journée de travail, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus professionnel dans l'organisation un de ces référendums en Suisse. Et moi, je pense que c'est inévitable, hein, le retour au bon sens du peuple. C'est absolument inévitable. C'est l'esprit de la Ve République aussi, parce que c'est ce que voulait le général de Gaulle. Hein, il n'avait absolument pas confiance dans les élites. C'est pour ça qu'il a mis fin au système parlementaire de la Ve République pour mettre en place un système de référendum et donner la voix au peuple, c'est-à-dire la voix au bon sens, tout simplement.
Alors, cette voix au bon sens...
Mais le phénomène, si vous me permettez, le phénomène de cette infantilisation du citoyen, c'est-à-dire qu'on lui fait des lois de plus en plus complexes, où il ne s'en sort plus du tout, parce qu'on les complexifie artificiellement, alors que les enjeux peuvent être toujours formulés d'une manière simple. Dès le moment où c'est compliqué, c'est qu'on est en train de vous tordre. Dès le moment que les politiques complexifient les textes, les rendent compliqués, c'est qu'ils veulent vous tordre. C'est qu'ils veulent que vous ne voyez pas. Puis alors après, ils vous infantilisent. Vous dites, non, écoutez, faites-nous confiance. Nous, on sait ce qui est bon pour vous. Non, mais arrête, c'est bon. Moi, je n'ai pas envie que l'État me dise comment je dois être heureux. C'est n'importe quoi, ça. Moi, je défends ce que beaucoup de... Si je prends mon canton, la partie germanique a voté pour l'initiative. Et l'autre partie francophone... très influencée par la France plutôt, bah elle a voté contre. D'accord ? Mais la partie germanique a voté pour. Pourquoi ces gens-là sont-ils encore plus à droite, etc. ? Parce qu'eux, ils estiment, et ça c'est un peu dans les gènes germaniques quand même, de la partie germanique de la Suisse, c'est l'État doit s'occuper de ses tâches régaliennes et ne pas se mêler de tout. Tout ce que le citoyen peut régler lui-même, qu'il peut mieux faire lui-même, il faut laisser, il faut faire confiance aux citoyens. Nous sommes partenaires. Alors que si on va vers l'ouest de la Suisse, c'est plus de dire « Ah, c'est l'État qui doit régler le problème ». Moi, j'étais chef des écoles en Valais, quand j'étais ministre. J'avais les écoles. J'avais les écoles du Valais romand, qui parlait français, l'école du Valais germanique, qui parle allemand. Je suis parfaitement bilingue, donc des deux côtés, je pouvais gérer sans problème. Mais c'est comme si j'avais deux mondes différents à gérer. Chaque fois que je donnais une responsabilité accrue dans les centres scolaires, donc j'essayais de décentraliser le pouvoir, de le fédéraliser, donc de donner des prérogatives dans les directions d'école, etc., de leur donner de la responsabilité vers le bas. Le Haut-Valais triomphait fantastique, des gros applaudissements. Le Valais romand, non, on ne prend pas cette responsabilité, ça c'est l'État qui doit faire. C'est cet étatisme, cette idée, l'État doit résoudre tous les problèmes. Non, il doit créer un cadre pour que les citoyens puissent raisonnablement résoudre eux-mêmes leurs problèmes. Voilà ce que doit faire un État idéal. Mais malheureusement, quand on met l'égalitarisme au-dessus de la liberté, c'est ce que Tocqueville il annonce, donc il faut couper toute la tête à la même hauteur. Alors évidemment, il faut l'État, il faut qu'il coupe, il faut quelqu'un qui coupe et qui a le pouvoir de le faire. Alors que quand on a confiance dans ces citoyens, c'est pour ça que les socialistes n'ont jamais eu confiance dans l'être humain. C'est pour ça qu'ils massifient tout. Eux, c'est les masses qui les intéressent. Mais quel manque de respect pour la dignité individuelle. Chaque individu est unique au monde. Chaque type qui crève là sur le front ukrainien, c'est un type de trop qui crève. C'est quelqu'un qu'il a fallu former pendant 20 ans pour qu'il devienne un adulte responsable, qui a connu des parents qui l'ont aimé, des frères et des sœurs. Vous imaginez ce qu'il faut pour qu'un être humain arrive à gérer dans la vie? Et là, il y a des milliers qui meurent tous les jours pour le pouvoir de quelques-uns et le fric. Ça me désole. Et le système suisse, moi j'ai écrit un essai là-dessus qui s'appelle « Le remède suisse ». Le système suisse a un remède contre ça. Donc, notre modèle est exportable. Il devrait donner des idées. Et tenez-vous bien, il y a dans mon propre pays, où il y a cet incroyable système unique au monde et unique dans l'histoire du monde, ils veulent s'en débarrasser pour aller se foutre sur le train avec Van der Leyen et qu'on sort. Et non. Mais c'est, des fois, c'est quand même désespérant. Oui.
Alors, Oskar Fasinger, donc, dans votre dernière phrase, vous faites allusion justement à ce qui va se passer après les élections d'octobre-novembre 2027, si je ne m'abuse, oui. Donc les élections fédérales, qui est la bilatérale 3, c'est-à-dire de nouveaux accords entre la Suisse et l'Union européenne qui vont impliquer des modifications institutionnelles et même constitutionnelles.
Ah oui, parce que s'ils posent la question aux Suisses, comme ça, de but en blanc, voulez-vous adhérer à l'Union européenne, c'est les trois quarts de non, ils savent. Alors, ils essaient de les tordre. Qu'est-ce qu'ils font ? Ah ben, on va faire un accord qu'on dit c'est une continuation des accords bilatéraux. Mais non, ça ressemble pas du tout. C'est pas du tout bilatéral. C'est un accord de soumission très très clair parce que la dernière instance c'est la Cour de justice européenne. Et tenez-vous bien, si vous n'obéissez pas, d'abord, quand il y a un acte juridique de l'Union européenne qui sera automatiquement repris, donc on va reprendre des lois dont on ne sait encore même pas maintenant quelles seront, hein. On reprend ces lois automatiquement, elles seront automatiquement mises en vigueur en attendant qu'éventuellement le gouvernement suisse décide que c'est assez important pour être soumis au Parlement, puis ensuite le Parlement va en débattre, mais tout ça ne sert encore rien parce qu'il y a encore une commission bipartite qui aura lieu, et puis ensuite cela ne décide pas non plus parce que finalement c'est la Cour de justice européenne qui décide. Donc on est en train de nous balader, et la Cour de justice européenne, elle va avertir les Suisses en disant « Attendez, si vous votez oui à cette initiative-là, par exemple de l'UDC, il y aura des sanctions. » Alors on ne dit pas « c'est des sanctions, c'est des mesures compensatoires. » Non, mais moi j'appelle ça des sanctions. Et elles ne sont pas liées à l'objet, elles sont transversales. Ils peuvent vous sanctionner sur n'importe quel objet économique qui vous lie à l'Union européenne. Donc vous imaginez, c'est un peu ce que fait Trump avec ses amis. C'est à peu près la même chose. Donc on serait dans un état de soumission complet. Alors, tenez bien, le programme c'est le suivant. On va nous dire, il nous faut cet accord pour qu'on accède au marché. Mais on y accède déjà. Il y a l'OMS et tout ça. On accède déjà à tout ça, d'accord ? Et puis, pas l'OMS, c'est
L'OMC.
L'Organisation mondiale du commerce, OMC, voilà. Donc, on nous dit, c'est l'accord qu'il nous faut. Il n'y a pas d'autre alternative. Oui, quand les politiciens vous disent qu'il n'y a pas d'autre alternative, vous êtes sûr qu'il y en a pas, toute une série d'autres alternatives. Donc, c'est déjà suspect. Donc, on nous dira ça. On va voter, admettons oui, admettons qu'on vote oui à ce texte inique. Tout de suite après, ils vont venir dire « Non, mais c'est vraiment un mauvais accord. Non, mais finalement, on a moins de pouvoir que le moindre des membres officiels de l'Union européenne. » Ce qui est vrai, qu'avec cet accord, on aurait moins de pouvoir que n'importe quel membre officiel de l'Union européenne. Donc, il faut adhérer. Donc, voyez comment ils essayent de tordre les gens pour qu'ils disent… Finalement, le pays adhérera sans qu'il y ait eu adhésion par le peuple suisse. On contourne sa volonté en le roulant dans la farine. À nous de dénoncer cela. Moi, je me suis remis sur les starting blocks pour me battre contre cet accord inique où finalement, il n'y a même plus la séparation des pouvoirs parce que c'est le gouvernement suisse qui peut décider s'il juge l'acte de droit européen qu'on reprend automatiquement suffisamment important pour être soumis au législatif. Mais je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. C'est législatif, il légifère, et l'exécutif, il exécute. C'est pas l'exécutif qui va dicter au législatif s'il peut légiférer ou pas. Mais on en est là, c'est ça qui nous pend au nez. Vous imaginez, tous les processus du système suisse qui ont fait leurs preuves seront chamboulés si on dit à ce merdier, je peux pas l'appeler autrement.
Alors, Benjamin Diesbach, par rapport à cette apocalypse européenne qui vous est annoncée, voilà une raison de plus pour, à chaque votation, faire en sorte de reculer l'échéance.
Oui, bien sûr. Mais moi, je pense que, de toute manière, encore une fois, la Suisse doit montrer, d'une certaine manière, l'exemple, parce que c'est ce que disait Oskar Freisinger, c'est un des rares exemples de démocratie suisse, de démocratie directe, où le citoyen a encore son mot à dire. Bon, donc, si jamais cet espoir disparaissait parce que la Suisse se faisait totalement absorber par le système européen, ça serait catastrophique. Ça serait catastrophique aussi pour nous, Français, parce que, encore une fois, il montre l'exemple que la démocratie directe, ça peut exister. Et que c'est tout à fait, enfin que c'est l'un des systèmes les plus raisonnables parce qu'il est axé sur le bon sens. Et en France, on marche sur la tête aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'est complètement délirant depuis la dissolution de Macron. La réalité, c'est qu'il n'y a même plus aucun contact entre la population et le législateur. Je veux dire, on comprend plus qui gouverne, qu'est-ce qu'on fait, qui décide quoi. Et ça, c'est évidemment extrêmement inquiétant parce qu'on sait que d'autres vont prennent ce pouvoir. Et ce pouvoir, bah, il est exercé à Bruxelles, c'est évident, par des forces beaucoup plus puissantes. Donc, la souveraineté des peuples est absolument essentielle dans la défense de la démocratie. Parce qu'elle est axée sur la fierté et la dignité du citoyen. Alors, quand il n'y a plus de fierté. Et sur l'histoire, oui, tout à fait. Et donc, la Suisse a montré, mais ce qu'ont fait les Grecs bien avant et les Romains, c'est-à-dire que la République, elle est axée sur la fierté et sur la dignité, encore une fois, du citoyen qui a son mot à dire dans la gestion des affaires de la cité. Si tout d'un coup c'est complètement coupé et puis que c'est décidé par des puissances supérieures aux citoyens, voilà, on rentre dans un système qui n'est plus un système démocratique. Et ça, c'est catastrophique.
Merci beaucoup Benjamin Disbach et merci beaucoup Oscar Freisinger de nous avoir accompagnés et de nous avoir éclairé sur la Suisse, ses perspectives et surtout ce miroir que vous nous tendez, aussi bien le fait que vous allez devenir français pour votre plus grand malheur ou qu'avec un peu de chance, nous allons devenir un peu plus suisses. Merci beaucoup et à très bientôt sur Radio Courtoisie pour commenter l'initiative sur la neutralité.
Merci.